étudiants. 158 en direct, CHGA.
Et il est 7h45 maintenant et on retrouve Marlène Tonnard, présidente du conseil d'administration du Perrot et bénévole. Bonjour Marlène.
Bonjour, bon matin.
Ça va bien aujourd'hui?
Ça va très bien.
Malgré le début de l'été là, qui se fait attendre un peu, ça a commencé officiellement hier, mais on n'avait pas la météo qu'on aurait espéré. On vous a aujourd'hui pour nous parler des randonnées, dans le fond, depuis la pandémie. On a vu une augmentation des randonneurs.
Bien sûr, oui, tout à fait, on le sait. Là, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais ce qui est assez intéressant, c'est que il y a un sondage qui a été fait et qui démontre que la population, malgré le fait que la pandémie est sur la fin, continue de trouver refuge dans la nature pour soulager le stress et l'anxiété.
Oui.
Donc, on voit que ça a créé quand même un momentum qui ne va pas se terminer, en fait, qui va se poursuivre. D'ailleurs, le sondage qui a été fait par une firme Ipsos démontre que 82% des personnes interrogées ont dit passer du temps dans la nature actuellement et qu'une proportion de 37% d'entre elles disent consacrer davantage de temps qu'avant le début de la pandémie en mars 2020. Les femmes, les jeunes et les jeunes familles sont les plus susceptibles de passer davantage de temps en plein air. On constate d'ailleurs à d'autres niveaux une recrudescence de l'intérêt pour les activités plein air.
Ben, dans un autre métier que je fais, j'ai beaucoup de personnes, beaucoup de clients qui me disent justement, là, depuis la pandémie, ils ont le goût d'aller plus vers la nature, ils ont le goût de déménager, il y a un stress en ville et aussi, ben là, avec l'option du travail à la maison, les gens se retrouvent en milieu rural, profitent de la nature et ben, ça va de pair. On est dans la nature, on décide de se promener puis de soulager le stress un peu.
Effectivement, on constate effectivement un changement à ce niveau-là. Là, il y a un petit bouleversement sociologique.
Oui, effectivement.
Oui.
Et sinon, j'allais parler, vous nous faites découvrir également d'autres sentiers là, dans l'Outaouais, de façon un peu plus générale.
Oui, effectivement, depuis 2 ans, on parle beaucoup de nos sentiers dans la vallée de la Gatineau, qui sont toujours là. On sait qu'on en a 11 et bientôt 12, puisqu'on nous a annoncé récemment que Gracefield avait reçu la subvention pour qu'on puisse construire un nouveau sentier du côté du lac Inné.
Oui.
Alors ça, évidemment, là, on va se mettre à l'ouvrage à cet égard-là. Ça va faire le 12e sentier. Mais je pense que dans l'Outaouais, il y a d'autres sentiers. Et comme il y a des gens qui, parfois, voyagent un peu dans l'Outaouais, cette année, j'ai décidé d'essayer de faire la promotion un peu d'autres sentiers que ceux de la vallée de la Gatineau. Et aujourd'hui, on parle dans le fond, de Duhamel. Ça s'appelle la route des Ingues.
Oui.
Et la route des Ingues, c'est une section du Sentier national du Québec, le SNQ, qui sillonne sommets et forêts entourés par des lacs de la région. On sait qu'on a une région, évidemment, peuplée de beaucoup de lacs. On peut soit choisir des petites sections qu'on marche aller-retour, comme par exemple du parking 5 au rocher de Sisyphe, qui est nommé en l'honneur du mythe grec. Le rocher de Sisyphe, c'est un gros monolithe planté devant un point de vue sur la région de la Petite Nation.
OK, oui.
De son côté, il y a aussi une possibilité de découvrir le mont, et attention, le mot est compliqué, le mot Kadjako-Kanak. En empruntant un parcours de 5,4 km aller-retour, la randonnée fait découvrir ce sommet nommé Kadjako-Kanak par les Algonquins et qui signifie le lac long, où un belvédère aménagé permet d'observer le vaste lac Gagnon.
Ooh.
Oui, donc pour s'y rendre, évidemment, on s'en va, on prend la route 321 nord jusqu'à Duhamel. Et dans le village, on peut tourner à droite sur le chemin du lac Gagnon ouest. On continue à peu près 3 km. On tourne à droite sur le chemin du lac Gagnon est. Et il y a des indications pour le sentier Julie et la route des Ingues. Donc, si les gens vont dans ce coin-là, dans la Petite Nation, c'est un autre sentier à découvrir.
C'est dans le comté de Papineau. Et sinon, parlons de trouvailles et de nouveautés, des gadgets ou des vêtements là, qui ont fait la une récemment.
Ben écoute, ce qui arrive, c'est qu'évidemment, comme le plein air devient de plus en plus populaire, le marché des gadgets qui sont sur qui sont vendus sont de plus en plus aussi innovants, je dirais. Et ce qu'on entend beaucoup, c'est que les gens sont parfois créatifs d'aller en forêt parce qu'il y a de la moustique, il y a des mouches, il y a des tiques. Et puis on nous met beaucoup en garde contre les tiques. Faites attention à la maladie de Lyme. Écoute, j'ai trouvé quelque part l'entreprise Boréal, qui est un fabricant de Saguenay, donc c'est québécois, qui propose chemises, pantalons convertibles et même une robe qui sont tous composés d'un tissu qui est traité d'un déperlant hydrophobe, sans présence de produits perfluorés, doté d'une propriété anti-moustique. Alors, si le pantalon contient majoritairement du nylon et du coton biologique, les chemises et les robes sont essentiellement composées de coton bio et de polyester. C'est sûr que c'est un produit qui n'est pas donné.
Non, ouais.
Sauf que ça nous donne quand même des indications à inviter les gens à aller peut-être aussi dans les boutiques plein air. Il y a peut-être des produits qui sont un peu moins dispendieux, mais qui ont un peu les mêmes propriétés. Donc, on a vraiment des vêtements qu'on peut porter puis ouais. qui ont, à quelque part, un répulsif.
C'est ça,
pour
là.
Les, oui, effectivement, pour les moustiques, les tiques.
Je suis curieux de savoir comment ça fonctionne. Ben, pas comment ça fonctionne, mais si ça fonctionne bien.
Écoute, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui en porte
ouais.
et qui me dit que oui.
Bon, ben c'est à essayer certainement.
Oui, c'est sûr que, comme je vous ai dit, par exemple, ce que je viens de dire ici là pour la collection Boréal, c'est oui. quand même assez dispendieux.
Mais c'est fait chez nous.
On parle de 100 $, mais c'est fait chez nous.
C'est ça.
Des produits de 100 $ environ. Mais bon, allons dans les boutiques plein air, il y a peut-être d'autres choses. Ben, à vérifier aussi si c'est pas toxique, là. Mais dans ce cas-ci, non. Alors, on parle d'un déperlant hydrophobe sans présence de produits perfluorés. Donc, c'est l'information qu'il faut demander quand on achète ce genre, évidemment, de vêtements.
Mais tu sais, je repense à ça. Puis si on fait une bonne dépense, on achète ce vêtement-là, par exemple, au coût de 100 $ puis ça fonctionne bien, ben on n'a plus besoin d'acheter du stuff à bébite. On n'a plus besoin d'avoir de la crème également. Fait que peut-être qu'à long terme, ben c'est une dépense qui en vaut le coup.
Ben c'est sûr. Et puis, ce sont des vêtements qui durent longtemps.
C'est ça.
Moi, j'ai une chemise. Bon, elle n'a pas ces fonctions-là, mais j'ai une chemise plein air que je porte en forêt, justement, pour me protéger. Je pense que je l'ai depuis 20 ans, puis c'est la même chemise.
Ben c'est ça.
Effectivement.
C'est rendu votre préféré.
C'est ça. Ben, en été.
Sinon, on termine avec les tourbières.
Oui, j'aimerais parler un petit peu des tourbières aux auditeurs. Écoute, aujourd'hui, je fais juste une introduction, puis je vais revenir effectivement la semaine prochaine.
C'est quoi des tourbières?
Ah, c'est quoi une tourbière? Ben, écoute, une tourbière, c'est un milieu humide qui est le plus répandu au Québec. Écoute, on a une biologiste, là, de TELUC, qui fait des études à ce niveau-là et qui nous dit qu'on peut en découvrir au fil des randonnées, le plus souvent sur les trottoirs de bois. Quand on fait des trottoirs de bois, c'est oui. parce que souvent on est dans un milieu humide et quand on regarde en dessous du trottoir de bois, il y en a entre autres au village Majopial,
oui.
puis c'est vraiment manifeste, on voit vraiment qu'il y a une tourbière en dessous des trottoirs de bois.
Puis pour mettre des images dans vos mots, ça ressemble à quoi une tourbière?
Ben, justement, c'est ça, c'est un milieu où on trouve plus de 30 cm d'épaisseur. Parfois, c'est même plus épais
okay.
que 30 cm, de matière organique accumulée. Et dans ces conditions acides, fraîches et pauvres en oxygène, la matière se décompose peu et la biomasse végétale s'accumule plus vite qu'elle se décompose.
Okay.
Donc, on va avoir une espèce de mousse, mm-hmm. mais en dessous de la mousse, il y a du végétal, puis c'est très spongieux, puis c'est très humide, puis ça peut être très, très épais. Et donc, voilà, ça, c'est une tourbière. Maintenant, je reviendrai la semaine prochaine avec plus de détails
oui,
sur...
Ben, c'est assez intéressant, tout ça.
Ben, parce que, écoute, on en voit beaucoup, et puis on dit toujours aussi que quand on se promène, il faut toujours protéger ces milieux humides.
Okay.
Ce sont des écosystèmes importants aussi. Alors, c'est important que les gens puissent les reconnaître quand ils se promènent.
Pour ne pas mettre le pied dessus, là.
Par exemple.
Et en terminant, le mot de la fin.
Écoute, le mot de la fin, c'est toujours de dire à nos auditeurs et à nos utilisateurs de sentiers pédestres que tous les sentiers sont à toute fin pratique entretenus pour une première fois. C'est sûr que là, on a beaucoup de pluie, donc oui. Ça va pousser. On va entreprendre la deuxième ronde de... À peu près vers le 4-5 juillet, on commence la deuxième ronde d'entretien. Il nous reste encore un sentier à terminer, le sentier numéro 3 à Bloussy. On est là-dessus pour le moment. La pluie nous retarde un petit peu. On est un peu en retard dans notre échéancier.
Et quand on parle d'entretien, là, par exemple, sur ce sentier-là, qu'est-ce qui reste à faire, mettons?
Ben, principalement, on dit ça en anglais, du whipper.
OK,
donc,
oui.
C'est
la
que
débroussailleuse.
La débroussailleuse, parce que ça pousse. Hein, puis
oui.
avec la pluie, on a les végétaux qui reprennent leurs droits à l'intérieur des sentiers. On utilise beaucoup aussi la souffleuse. pour évacuer tout ce qui est feuilles mortes, etc. Puis aussi pour indiquer aux gens de le sentier, il est là, et donc on essaye de demander aux personnes de rester dans les sentiers pédestres aussi. Donc c'est essentiellement ce qu'on fait. On enlève les arbres morts qui sont tombés pendant l'hiver. Oui. Il y a plusieurs arbres qui encombrent les sentiers.
Et surtout avec les gros vents là, qu'on a connus récemment aussi. Là.
Oui, tout à fait. Et alors aussi, on refait le ménage dans les pictogrammes. Souvent l'hiver, puis il y a des pictogrammes qui se sont déplacés, ou bien les arbres tombés, ben il y a des pictogrammes dessus, il faut qu'on les replace ailleurs. Donc il y a tout un travail là, à faire pour la première ronde, et c'est à toute fin pratique, terminé. Il reste, comme je vous dis, sentier numéro 2 à terminer et 3 qu'on est en train de faire à Blousy.
Ben, on va aller utiliser les autres.
Parfait, je vous y invite.
Ben, ce fut un plaisir, Marlène, et on se reparle la semaine prochaine.
À mercredi.
Merci
et bonne
beaucoup.
Semaine à tout le monde et bonne randonnée.
Pareillement, au revoir.
Au revoir.